c'est Ariane Ascari.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On a entendu votre voix, du coup, Ariane Ascari.
Bien, bonjour. Très bien.
Et celle également de Didier Bezaz, parce que tous les deux, vous consacrez un spectacle, une lecture aux poésies d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. On va d'ailleurs entendre leur voix, tous les deux.
Est-ce que vous connaissez Elsa?
Je ne crois pas. C'est-à-dire que je crois tout le temps que je la connais bien, mais qu'Elsa elle-même change l'idée que je me fais d'elle, que je pense toujours qu'Elsa m'échappe. Et cependant, je le pense depuis 37, 38 ans.
C'est étrange que tu penses ça.
Je me souviens du chapeau ou du manteau de fourrure d'Elsa le jour où je l'ai rencontré. Mais le reste, c'est l'infixable.
Eh bien, moi, j'ai des souvenirs assez précis. Louis ressemblait à un danseur d'établissement. Il était très mince et très beau, un peu trop beau.
Ça vous plaît, Ariane? Ariane Ascaride.
Oui, bonjour. Mais oui, ça me plaît. Oui, j'adore, parce que moi, j'adore Elsa Triolet. Et que c'est un auteur que je connais assez bien. Enfin, ses écrits. Et c'est vrai qu'elle dit, quand elle dit il était un peu trop beau, mais elle n'avait pas tort. C'est vrai qu'il était très très beau.
Mais elle était pas mal non plus.
Mais j'ai pas dit qu'elle était mal. J'ai dit que lui était très très beau. Et elle, dans un des textes qu'on fait, elle dit, mais est-ce que ça existe un mari comme ça? Une prima donna. Et c'est vrai que quand même, elle avait un côté un peu prima donna, Aragon. Hein.
C'est un peu... Dandy.
C'est un dandy. Un grand dandy.
Alors ça tombe bien parce que donc dans ce spectacle que vous donnez actuellement au théâtre Le Lucernaire à Paris, mais qui va tourner ensuite en province, vous faites entendre donc les mots d'Elsa Triolet et de Louis Aragon. Et il faut peut-être rappeler pourquoi ce couple est mythique à la portion d'auditeurs la plus jeune qui peut-être n'a pas eu la chance encore de connaître Triolet et Aragon,
écoutez,
Didier Bezaz.
Oui, il fait partie des quelques couples mythiques de la littérature française. Hein. Sartre-Beauvoir, Héloïse et Abélard, voilà, Roméo et Juliette dans l'ordre de la fiction, et Aragon et Triolet. C'est-à-dire que ce sont des gens qui à la fois ont mené une vie amoureuse très riche et très contradictoires ou contrastés, et qui en même temps ont été des grands écrivains. Voilà, c'est tout simplement
pourquoi
ça.
Pourquoi contradictoire?
Contradictoire parce que finalement, et on en rend compte dans le spectacle qu'on interprète à travers les différents textes qu'on a sélectionnés et montés ensemble, en fait, ils traversent des phases de la vie amoureuse que beaucoup de gens, même ordinaires, peuvent connaître. Hein, mais eux savent bien dire à la fois leur état d'esprit, leur état amoureux, leurs déceptions, leurs angoisses, leurs peurs, leurs inquiétudes.
Voilà. Ariane Ascaride.
Oui, non, mais en plus, je pense que c'est deux grandes personnalités et que je pense que c'était pas toujours très simple pour Elsa Triolet, hein, parce que il y a eu comme ça cette grande mythification de Louis Aragon, et aussi à l'intérieur de cette contre-culture qui existait, qui était très très forte dans les années 50, 60, 70, qui appartenait à cette contre-culture, qui était un peu, comment dire, drivée par le Parti communiste français. Et donc Louis Aragon et je tiens à préciser que Louis Aragon est un immense auteur quand même. Pour nous, c'est le plus grand auteur du XXe siècle. C'est vraiment génial comment il écrit. C'est assez étonnant.
Un poète extrêmement prolixe qui a écrit.
Il écrit tout le temps, mais il faut quand même pas oublier que je pense, vous savez, qu'il est paru ce qu'on appelle les œuvres croisées de Louis Aragon et Elsa Triolet. Et je pense que Elsa Triolet l'a beaucoup influencé dans ce qui est avant tout son écriture romanesque.
Didier Bezaz.
Oui, ce que dit Ariane est tout à fait juste. En fait, effectivement, il y a deux types d'écriture différents dont le montage des textes qu'on a fait rend bien compte, c'est-à-dire la fulgurance poétique qui est portée par Louis Aragon. Et encore une fois, effectivement, c'est certainement le plus grand poète français du XXe siècle. Et puis, il y a cette écriture à la fois... existentielle, très très proche d'une grande lucidité, d'un humour sur soi-même, et aussi d'un courage de la vérité qui est porté par Elsa Triolet.
Alors si le destin de ce poète a été terni et celui d'Elsa Triolet également. C'est aussi en partie du fait de leur engagement, de l'engagement auprès donc du Parti communiste, au point de justifier un certain nombre d'épisodes qui appartiennent aux épisodes les plus noirs du communisme au XXe siècle, compagnons de route mais aussi staliniens. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut sauver Triolet et Aragon, Didier Besas?
En tous les cas, en ce qui concerne Aragon, je ne sais pas si Elsa Triolet, qui est morte en 1970, a eu le temps de livrer ses réflexions à travers des textes sur leur engagement. Aragon, dans des textes qui sont quasiment des textes testamentaires, a parlé des erreurs, a parlé de ce courage politique qui a mal tourné, voilà. Il l'a dit très bien, il l'a dit de manière très belle, en n'ayant pas forcément un grand espoir pour les lendemains qui allaient lui succéder, mais il l'a dit.
Ariane Ascaride.
Oui, moi je pense que c'est un peu les rétrécir que de les montrer comme staliniens, ce qu'ils ont été, je dis pas le contraire, mais je pense que si c'était aussi des gens, enfin, en ce qui concerne Aragon, ça m'embête un peu qu'on le présente comme simplement Staline. Aragon, c'est aussi un surréaliste, hein, quand il est jeune, hein. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours comme ça. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire dans ce mot-là? Il est pas dans un quotidien, dans une manière d'appréhender la réalité comme ça. Je pense qu'ils sont partis dans des choses comme ça. Mais, à un certain moment donné. Mais je pense que très vite, ils en sont aussi revenus. Simplement, ils étaient tellement déifiés, je veux dire, par le Parti communiste, que c'était difficile aussi pour eux de se dégager complètement de ça.
Oui, puis il y a autre chose, c'est que certes, ils ont dû être mêlés au pragmatisme politique du Parti communiste à leur époque. Mais dans les textes, Aragon sublime énormément l'engagement politique. C'est-à-dire que il parle d'une grande confiance en l'homme, d'une renaissance de l'homme, de la liberté des pauvres qui va advenir. Et tout ça, finalement, c'est sans doute la vraie racine communiste de son engagement.
On va entendre justement Aragon s'exprimer sur l'engagement.
Le mot « engagé » provient d'une source parfaitement noble, c'est-à-dire qu'il est du langage de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre parle en fonction de ce qui est son idéologie. Et si probablement le concept de l'engagement vaut dans le cadre des conceptions sartriennes, il ne vaut rien dans la mienne de conception. Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n'ai jamais été engagé. À aucune Saint-Valentin, je ne suis pas un domestique. J'écris ce que je pense, et il n'y a pas besoin d'un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu'on écrit ce qu'on pense.
Vous opinez du chef, Ariane Ascaride.
Bah oui, ça me fait rire parce que, vous savez, très souvent, on me présente comme comédienne engagée.
C'est vrai ?
Oui, très très souvent, on nous présente comme ça. Et je trouve que ce qu'il vient de dire, c'est génial, parce qu'effectivement, il écrit ce qu'il pense.
Ouais, dis donc, vous n'avez pas dit ce qu'il a dit, hein.
Il a dit « j'écris ce que je pense ».
Oui, bien sûr, mais Aragon a aussi dit « lorsque Staline est mort, l'homme que nous aimons le plus au monde est mort ». Vous n'avez pas dit ça,
bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses comme ça.
C'est
hein.
vrai,
d'accord,
il n'était pas le seul.
Il n'est pas le seul.
Y compris
hein.
dans nos familles respectives, mais néanmoins, ça reste plus pour lui parce que c'était un poète.
Oui, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a l'engagement. Alors on peut dire, Aragon est aussi un citoyen, donc en tant que citoyen, il prend des engagements politiques, certes, il s'engage à côté du Parti communiste, mais l'homme qui écrit dépasse largement cette notion pragmatique d'engagement. Il a sa liberté d'homme et sa liberté d'auteur surtout. Et on le voit à chaque mot qu'il écrit. C'est un homme qui est porté par une grande liberté et une grande confiance dans l'humanité. Voilà.
Et sur ces mots, parce que Aragon n'a pas été uniquement connu, évidemment, pour son engagement politique, il a été d'abord connu pour une incroyable capacité à écrire une poésie que vous qualifiez de plus grand poète du XXe siècle. Pourquoi ces mots vous ont-ils touché, Didier Besas?
Ah ben, moi, j'ai été touché parce que je ne suis pas un connaisseur érudit d'Aragon. Et lorsque, avec Bernard Vasseur, nous avons commencé à imaginer ce projet de montage de texte autour de d'Aragon Triolet, d'une espèce de fiction amoureuse de leur vie, fiction amoureuse et politique de leur vie, j'ai découvert des textes d'Aragon que je ne connaissais pas. J'étais un connaisseur d'Aragon comme on l'est tous finalement, les grands textes célèbres, beaucoup de ceux qu'on a mis en chanson.
Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que Ferrat et Ferré ont largement contribué à rendre Aragon célèbre.
Absolument. Mais quand on se dit devant la feuille qu'on va dire ces mots-là, eh bien, on a tout de suite le sentiment d'être porté non seulement par une pensée très grande, mais par une fulgurance de l'image poétique qui est effectivement, je pense, une des plus grandes dans le XXe siècle, c'est sûr.
Voilà. Ariane Ascaride, peut-être aussi sur les mots d'Elsa Triolet, parce que finalement, ils sont moins connus que ceux d'Aragon.
Ils sont moins connus, c'est drôlement injuste, mais je vous dirais que c'est comme George Sand, elle est moins connue que ses contemporains.
Et
que Musset, oui, voilà. Mais c'est toujours la même histoire, je ne veux pas de bon matin commencer à raconter toujours les mêmes choses, mais c'est vrai que les femmes...
Si, au contraire, vous êtes là
c'est vrai que les auteurs femmes, elles ont toujours plus de mal que les autres. Et Elsa Triolet, c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien et qui a une fibre... N'oublions pas que c'est le premier Goncourt. Hein, c'est la première femme qui a le Goncourt, d'accord ? Et je ne comprends pas pourquoi. Parce que, enfin, il y a un truc qui m'énerve énormément sur Elsa Triolet, c'est qu'on la représente tout le temps comme un peu raide, un peu revêche, avec son turban. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Elsa Triolet. Et c'est quelqu'un qui, je pense, a écrit des tas de livres sur la réalité française, par exemple, dans les années 50, après la guerre, qui sont des livres absolument formidables et avec des personnages, entre autres, dans Rosa Crédit, avec un personnage féminin qui, moi, je trouve encore des résonances étonnantes aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a une capacité d'écriture, c'est d'une fluidité impressionnante.
Alors si vous deviez en conseiller un, Ariane Ascaride.
Rosa Crédit, et parce que c'est vraiment génial pour toutes les jeunes filles et pour tout le monde, les garçons et les filles, Le Cheval Blanc.
Il y a des choses étonnantes parce que on les connaît donc pour les mots d'amour échangés les uns avec les autres, et puis on découvre également des choses différentes dans cette correspondance. On découvre aujourd'hui des lettres où
elle en avait marre des fois. Hein.
Mais pourquoi ?
Bah dites donc, vous voulez vivre avec Aragon ?
Ah bah, vivre avec Aragon, oui, c'était pas facile. C'est sûr que c'était pas facile. Mais attention, c'est le spectacle qu'on interprète n'est pas tissé de correspondance. Ce sont des textes de fiction aussi bien d'Aragon que de Triolet. Et à travers ces textes de fiction, on reconstitue un itinéraire amoureux qui est sans doute assez proche du leur, mais qui reste un itinéraire fictionnel, tout simplement. C'est le roman, on raconte à travers les textes d'Aragon et de Triolet, le roman de leur amour.
Alors, voilà. C'était pas facile de vivre avec Aragon. Il a connu beaucoup de femmes avant, il a connu beaucoup d'hommes après.
Oui, de temps en temps, vous êtes un tout petit peu, excusez-moi de vous le dire, un peu caricatural. Il a connu beaucoup de femmes avant, il a connu beaucoup d'hommes après.
Qu'est-ce que vous diriez pour dire les choses précisément, Ariane Ascaride ?
Non, je pense que c'était un homme qui avait un grand plaisir dans la séduction. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, elle le dit très bien, elle le sait extrêmement bien. Et elle, de son côté, elle dit, être à deux tout le temps, c'est compliqué, elle n'est pas très sûre de ça, si elle reste, si elle ne reste pas.
Puis, mais elle a connu des hommes aussi.
Et ce que je trouve très beau chez elle, c'est qu'elle dit, bon d'accord, mais si je m'en vais, je fais quoi ? Répéter, être avec d'autres hommes, c'est un truc formidable. Cette fille, elle écrit ça dans les années 40, elle dit... faire l'amour, ces gestes dépersonnalisés, répétitifs. Elle se pose des questions justes si elle rencontre un autre homme qu'un homme qu'elle aime.
Du coup, je sais pas si je suis caricatural,
En fait, je pense qu'il faut parler plus de ce qu'est de l'effet que produit le spectacle sur les spectateurs. C'est un spectacle que les gens viennent voir en couple, parce que quoi qu'on en dise, et même si on traverse des moments de doute dans le couple, d'inquiétude, de jalousie, de rancœur même, les gens s'y reconnaissent et ils ont l'impression qu'on parle formidablement à travers des écritures magnifiques de la vie du couple. Voilà, c'est ça le projet du spectacle et ce qu'il produit sur les gens, c'est ça.
Ce que je vous propose justement, c'est de nous donner un exemple de ce spectacle. Vous êtes arrivé avec un texte à deux voix, et je vous propose de le faire découvrir aux auditeurs, Ariane Ascaride et Didier Bezas.
Il ne faut pas cacher sous un mouchoir sa face. Quoi ? Toujours ce serait la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement née, les blés déchiquetés toujours des sauterelles.
Quoi ? Les bagnes toujours, et la chair sous la roue. Le massacre toujours justifié d'idoles. Au cadavre jeté ce manteau de parole. Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou.
Un jour, pourtant, un jour viendra couleur d'orange. Un jour de palme. Un jour de feuillage au front.
Un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Et le plus simplement du monde, il y aura la jeunesse d'aimer. Et les yeux des pervenches, des parfums plus profonds, et des aubes plus blanches.
Et le tendre infini dont m'entourent tes bras.
Didier Bezas et Ariane Ascaride, je suis seul donc je ne vais pas applaudir, mais je vois que la régie applaudit. C'est un extrait de ce spectacle que vous le donnez pour l'instant au Lucernaire, mais il va tourner un peu partout en France. Vous avez choisi différents textes d'Elsa Triolet et d'Aragon, de la poésie, de la prose. Comment avez-vous opéré ce choix, Didier Bezas?
C'est un choix qui s'est opéré progressivement. Bernard Vasseur, qui a été le premier à me fournir énormément de textes d'Aragon dans un premier temps. Je crois qu'il m'a donné une soixantaine de textes pour essayer de tracer ce chemin qui aboutit à ce montage, où il y en a 16. Comme on cherchait cette espèce de petit chemin amoureux qui allait nous mener de la rencontre à l'amour fusionnel, à la déception, tout ça... Pendant une période d'engagement politique, il y a la guerre aussi, hein, qui les entoure, enfin qui les cerne. Eh bien, j'ai fait ce chemin tout doucement. Le montage a beaucoup évolué entre la création et le moment où on le fait maintenant, mais il a cette cohérence-là.
Ariane Ascaride, Didier Bezas, yes. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes, juste après les informations. 18h21, alors on va se demander si les mots d'Elsa Triolet et d'Aragon peuvent faire monter le Parti communiste, puisqu'on va en reparler en compagnie d'Ariane Ascaride et de Didier Bezas. Mais peut-être tout d'abord une réaction, puisqu'on va parler de deux poètes engagés. Vous êtes des acteurs engagés, je sais que le mot vous agace, Didier Bezas.
Oui, j'ai écouté Aragon en parler tout à l'heure. Je partage cette opinion, effectivement, je me sens libre et je vais là où il me semble que ma conscience doit me porter. Mais est-ce que ça veut dire engagement ? C'est-à-dire que c'est un mot qui a été énormément bradé, hein, quand même. Voilà, je pense que les citoyens sont engagés. En fait, on est engagé parce qu'on est citoyen, tout simplement. Donc, c'est pas forcément la peine de faire un pléonasme.
Ariane Ascaride, votre engagement à Marseille. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup de Marseille aujourd'hui suite à l'effondrement de deux immeubles dans le centre de Marseille. Il y a un mouvement de colère dans cette ville. Comment vous le ressentez-vous ?
Alors, je dirais d'abord que je suis pas engagée à Marseille, je suis marseillaise. C'est pas la même chose. Et deuxièmement, je le ressens très mal. Parce que moi, je le connais très bien, cette rue. Je l'ai tellement arpentée, cette rue, parce qu'elle n'est pas très loin de l'endroit où j'habitais quand j'étais enfant et quand j'étais jeune fille.
Elle ressemble à quoi ?
Eh bien, ce sont des immeubles qui datent de la fin du 19e siècle, voyez-vous. Et c'est une rue qui a toujours été habitée par une population immigrée, dans les vagues diverses d'immigration. C'est une rue dans laquelle il y a beaucoup de petits commerces qui vendent des épices, des choses comme ça. C'est une rue très 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 commerçante. Et effectivement, si vous voulez, il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que Marseille est certainement la seule ville, grande ville en France, dont le centre est occupé par une population pauvre. Voilà. Donc, à partir de là, la question que je pose, c'est est-ce qu'on veut les laisser dans le centre ou est-ce qu'on veut pas les laisser dans le centre ? Est-ce qu'on veut... Parce que là, je vois bien, je comprends bien qu'en ce moment, tout le monde s'affole. hein, que toutes les instances sont en train de s'affoler et peut-être de se renvoyer les responsabilités. Mais enfin, ça fait très, très, très longtemps que toutes les instances municipales et autres sont averties de l'état des immeubles de ce quartier-là, de ce quartier qui appelle le quartier de Noailles.
Mais alors, justement, puisque donc vous connaissez ce quartier, Ariane Ascaride, est-ce que vous avez senti le centre-ville de Marseille se transformer, se paupériser?
Je l'ai pas senti se paupériser. Il a toujours été un quartier comme ça. C'est une population populaire qui a toujours habité ce quartier. C'est ça qu'il faut
comprendre. C'est pas pire qu'avant?
C'est pas pire qu'avant.
C'est certainement pire dans les conditions de vie de ces gens-là.
Voilà, c'est pire dans les conditions de vie. Oui. Mais c'est le principe fondamental, c'est celui-là. C'est qu'est-ce qu'on veut faire du centre de cette ville? Est-ce qu'on veut, une fois que les... Ma question, moi, voyez-vous, c'est une fois que les immeubles sont tombés, là, bon, tout le monde s'affole, et qu'est-ce qui va se passer après? On va reconstruire des immeubles dans lesquels les gens de ce quartier, qui habitaient ce quartier depuis 40 ans, ne pourront pas entrer et ne pourront pas payer les loyers? C'est la question que je me pose.
Ça ressemble énormément à toutes les techniques qui ont été employées, notamment à Paris, quand on a voulu que les gens pauvres partent des quartiers du centre de Paris, qui étaient destinés à des rénovations pour d'autres populations. C'est exactement la même technique. On sait très bien que derrière l'immeuble effondré, il y a des promoteurs qui vont faire de très beaux projets, mais ces projets-là ne seront pas pour les mêmes citoyens.
Voilà, et moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont morts. Voilà, il y a des gens qui sont morts. C'est tout.
Revenons à la poésie. Quelques mots d'Elsa Triolet, on écoute sa voix.
Je dois vous dire que j'ai été assez étonnée par une question d'une amie à moi, qui est la femme d'un peintre qui l'a beaucoup peint, elle a servi de modèle à la majorité de ses tableaux. Elle m'a dit, comment est-ce que ça ne te gêne pas d'être tout le temps présent dans des poèmes d'amour? Je lui ai répondu, toi, ça ne t'a pas gêné d'être peinte, habillée et nue par ton mari. C'est exactement la même chose, parce que ça s'arrête là. Ce que le peintre veut dire est après tout assez extérieur. Les véritables relations du peintre avec son modèle ne sont pas peintes, pas plus que dans la poésie d'Aragon ne sont peints nos rapports.
La voix d'Elsa Triolet, puisque vous consacrez aux mots d'Elsa Triolet, de Louis Aragon, Ariane Ascaride et Didier Bezas, un spectacle « Il y aura la jeunesse » d'Aimé au Lucernaire à Paris, puis en province. Quelques commentaires sur ce que vous venez d'entendre et qui vous a fait sourire. À chaque fois que vous entendez la voix d'Elsa Triolet, Ariane Ascaride, ça vous met en joie.
Oui, c'est vrai, ça me met en joie. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui m'aident à vivre, vous voyez. C'est la littérature, moi je suis une grande lectrice, la littérature est quelque chose qui m'accompagne beaucoup, beaucoup. Mais il y a des femmes, il y a des auteurs, Elsa Triolet, Anna Seghers ou George Sand d'ailleurs. Voilà, c'est des bonnes femmes qui m'aident tout simplement à vivre, comme manger et boire.
Pourquoi ces mots vous touchent?
Parce que ce qu'elle vient de dire, vous savez, moi je vis avec un homme qui est aussi un créateur.
Un cinéaste,
oui. Et je participe à son travail. Et c'est pas que je me reconnais, mais je comprends exactement ce qu'elle dit.
Ça veut dire que le fait d'être un couple de créateurs, par exemple, si vous voyez, par exemple, votre couple avec Robert Guédiguian, Ariane Ascaride, quelle comparaison feriez-vous, le fait justement de créer ensemble, de travailler ensemble comme l'on fait?
C'est le hasard qui a fait que c'est parti comme ça et que ça fait 30 ans, plus de 30 ans que ça dure. Mais c'est vrai que quand les gens me présentent en disant « Ah, vous êtes la muse de Robert Guédiguian », je dis « Non, je suis pas la muse, je suis la complice ». Parce qu'une muse, c'est quoi? Une muse, c'est celle qui inspire. Moi, j'inspire pas, je travaille avec lui. On échange, on se croise, on croise les choses. C'est une chose que j'aime beaucoup chez Elsa Triolet et Louis Aragon, c'est qu'ils ont fait les œuvres croisées, d'accord? Donc ça raconte comment un couple, ça peut être aussi la possibilité d'élargir le champ de création.
Mais ce qu'elle dit, Elsa Triolet dans ce qu'on vient d'entendre là, c'est qu'en fait, il y a une fiction du couple qui apparaît à travers l'œuvre d'art, qu'elle soit picturale, elle parle d'un ami modèle d'un peintre, ou qu'elle soit littéraire. Et effectivement, c'est très très joli et très juste de dire, mais ce ne sont pas nos vraies relations. Mmh. Non, mais en même temps, c'est beau, cette distance. Le fait qu'il y a une réalité, qu'ils vivent, et que cette réalité, elle est dépassée, elle est, en même temps, elle nourrit l'œuvre créatrice, et en même temps, elle la mystifie un peu. Je trouve que c'est très joli, et de l'analyser comme elle le fait, c'est très beau.
Mais alors, on découvre quand même, Ariane Ascaride, que le travail d'Aragon occupait une place trop importante aux yeux d'Elsa. Il y a un texte intitulé « Il n'est pas facile de te parler ». Elle parle de sa solitude, du fait que la passion d'Aragon pour la poésie dévore tout.
Mais c'est pas simplement la façon de la poésie pour d'Aragon dépasse tout, c'est que simplement c'est le rapport des hommes et des femmes. C'est-à-dire que depuis très très longtemps, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on joue des coudes, nous les filles, pour arriver à exister, vous voyez, parce que si quand on vit avec un créateur, la plupart du temps, tout ce qu'il a à faire, c'est beaucoup plus important que tout ce que vous pouvez dire ou tout ce que vous avez à faire. Il faut s'imposer. Il faut vraiment s'imposer.
Elle lui dit la chose suivante. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu dans ta course. Il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas.
Ça me fait rire. Parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup dépassé ça, vous voyez ?
Didier Bezaz.
Non, mais en plus, je pense que ça doit être vrai dans toutes les vies de couple où, effectivement, l'homme accomplit quelque chose, une œuvre, ou simplement fait même un métier très prenant. Je crois qu'il y a un moment où il considère que c'est la chose la plus importante et que sa compagne doit suivre, doit fournir, doit comprendre la chose.
Il faut quand même que je dise le contraire de ce que vient de dire Ariane Ascaride, parce que dans la mythologie, on considérait que c'était plutôt Elsa Triolet qui embêtait Aragon.
Ouais, et c'est ça aussi. Bah ça participe du même truc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez votre bouche, en tant que femme, vous êtes une emmerdeuse.
Voilà, oui, c'est ça. Ça devait l'embêter, Aragon, effectivement, qu'elle ait une exigence de partage de ce qui se passait dans leur vie. Mais lui courait sur une comme une fusée, sur une lancée comme ça. Et on retrouve ça. On peut le retrouver chez des médecins, chez des architectes. Je crois. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce montage de texte, il parle tellement aux gens. Mmh. C'est que finalement. Leur vie, avec ces contradictions et que vous avez soulignées, elle est partagée par beaucoup de gens qui vivent la même chose, mais qui le disent pas aussi bien.
À ceci près, alors je continue toujours sur l'opposition et la manière dont ce couple fonctionnait, les voix d'Aragon et d'Elsa Triolet n'étaient pas seulement des voix qui s'exprimaient sur le plan domestique, mais aussi sur le plan politique. Mmh. Il est possible que son engagement à elle ait été plus radical que son engagement à lui ?
Eh bien, je ne suis pas sûre, moi, de ça. Vous voyez ? Parce que je ne suis pas sûre. C'est simplement une fille qui, effectivement, naît à Moscou avant
juive russe, Elsa Triolet, est un nom d'emprunt.
Et avant la révolution de 17... que c'est quelqu'un, effectivement, qui est présenté, sa sœur est mariée à Mayakovsky, sa sœur qui s'appelait Lily Brick. Donc, elle arrive, si vous voulez, avec tout un, comment dire, presque l'Olympe du soviétisme, je sais pas comment dire. Et donc, elle est beaucoup représentée comme l'espèce de la femme d'avant-garde communiste. Oui. Mais je suis pas sûre que ce soit si simple que ça. Ce qui est pour moi fort, c'est qu'effectivement, c'est une résistante. Il faut jamais oublier ça, hein. C'est des résistants pendant la guerre, c'est une femme qui se bat, mais moi je trouve qu'elle est beaucoup plus moderne, beaucoup beaucoup plus moderne que l'image qu'on en donne, c'est-à-dire d'une image un peu stalinienne, justement pour revenir à ce que vous disiez.
Didier Bezaz.
Oui, non mais je pense qu'effectivement, elle amenait avec elle au Parti communiste français, elle amenait toute la légende et la mythologie soviétique. Et lui, comme d'autres d'ailleurs, était un phare intellectuel dont le parti ne pouvait pas se passer. Donc ils ont été emportés dans cette espèce de tourbillon.
Cette
mythologie politique qui, dans ces années-là, s'est imposée, c'est vrai.
Alors, il n'y avait pas quand même que la politique dans la vie, il y avait aussi l'amour. Lorsqu'elle le découvre, cet homme, elle dit du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés heureux comme deux chiens dans le même panier. Il y a des poèmes qui sont des poèmes extrêmement célèbres, qui ont été rendus encore plus populaires peut-être parce qu'ils ont été chantés par Ferré et Ferrat. On entendra d'ailleurs dans quelques instants un peu de cette musique. Ce sont de très belles paroles d'amour, Ariane Ascaride.
Oui, ce sont très belles paroles d'amour et surtout, voyez-vous, ce qui est assez génial, c'est que ce soit Ferré ou que ce soit Ferrat, quand ils les ont mis en musique, c'est devenu des tubes. C'est des tubes. Moi, je peux vous dire que enfant, Ferrat qui met en musique Aragon, tout le monde chante ça. Ça passe à la radio tout le temps. C'est quand même assez épatant, ça.
On va écouter d'ailleurs Ferré immédiatement.
Donc que tu paraisses de l'air, que te fera ta chant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim.
Ferré, évidemment. Didier Besas, le fait de chanter du Aragon, qu'est-ce que ça dit sur ces mots, sur cette poésie?
On a affaire à des interprètes, que ce soit Ferré, et qui ont fait le bon pari. C'est-à-dire que ils ont pensé justement que à la fois ils utilisaient un support très populaire, la chanson, et qu'en même temps cette chanson, elle pouvait être chargée d'une force poétique et d'une exigence littéraire très grande, voilà. Et c'est le bon pari pour la chanson, je pense, à l'époque et même maintenant.
Absolument, je suis toute. Alors là, je suis vraiment d'accord. Vous voyez, on n'est pas obligé d'envoyer de la soupe dans la chanson populaire.
Voilà.
Vous voyez, il y a des grands poètes aujourd'hui encore. Hein,
bien sûr, bien sûr.
C'était pas évident de percevoir chez Aragon la possibilité de mettre ça en chanson, de mettre ça en musique.
Écoutez, là, il faut faire confiance, et on en a la preuve, justement, on vient de l'entendre, il faut faire confiance au talent de ceux qui l'ont fait. Hein. Il y a pas, moi, je ne connais pas de poème d'Aragon mis en musique qui ait été un échec ou quelque chose qui nous est paru boiteux, volontariste. Non, ça a l'air d'être fait pour ça. Ça a l'air d'être fait pour ça. C'est ça qui est étrange.
On va vous faire confiance pour une autre lecture, Ariane Ascaride, Didier Besas, une lecture tirée donc de ce spectacle que vous donnez en ce moment même à Paris au Lucernaire. On vous écoute.
Comme à l'homme est propre le rêve, il sait mourir pour que s'achève son rêve à lui par d'autres mains, son cantique sur d'autres lèvres, sa course sur d'autres chemins, dans d'autres bras, son amour même, que d'autres cueille ce qu'il sème. Seul, il vit pour le lendemain. S'oublier est son savoir-faire. L'homme est celui qui se préfère à un autre pour boire son vin. L'homme est l'âme toujours offerte, celui qui soi-même se vint, qui donne le sang de ses veines sans rien demander pour sa peine, et s'en va nu comme il s'en vint.
Il est celui qui se dépense et se dépasse comme il pense, impatient du ciel atteint, se brûlant au feu qu'il enfante comme la nuit pour le matin, insensible même à sa perte, joyeux, pour une porte ouverte sur l'abîme de son destin.
C'était un petit intermède musical. Continuez, Ariane.
L'avenir est une campagne contre la mort. Ce que je gagne sur le malheur, C'est le terrain que la pensée humaine rogne pied à pied, comme un flot marin toujours qui revient, où naguère son écume a poussé sa guerre et la force du dernier grain.
L'avenir, c'est ce qui dépasse la main tendue, et c'est l'espace, au-delà du chemin battu. C'est l'homme, vainqueur par l'espèce, abattant sa propre statue, debout sur ce qu'il imagine comme un chasseur de sauvagines, dénombrant les oiseaux qu'il tue. À lui, j'emprunte mon ivresse, il est ma coupe et ma maîtresse, il est mon averse caldée, le mystère que je détrousse comme une lèvre défardée. Il est l'œil ouvert dans la tête, mes entrailles et ma conquête, le genou sur Dieu de l'idée. Tombez aux lois, aux pauvres fêtes. Voici des fruits pour d'autres fêtes où je me sois mon propre feu. Voici des chiffres et des fèves. Nous changeons la règle du jeu. Pour demain fou que meurt hier, le calcul prime la prière et gagne l'homme ce qu'il veut.
L'avenir de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme. Elle est sa rumeur et son bruit. Et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Il n'est qu'un noyau sans le fruit. Sa bouche souffle un vent sauvage, sa vie appartient au ravage, et sa propre main le détruit.
Je vous dis que l'homme est né pour la femme, est né pour l'amour. Tout du monde ancien va changer. D'abord la vie, et puis la mort. Et toute chose partagée, le pain blanc, les baisers qui saignent, on verra le couple et son règne, neiger comme les orangers.
Bravo, merci beaucoup. Merci pour cette lecture, Ariane Ascaride et Didier Bezas. Vous qui êtes maintenant au quotidien avec ces mots...
On peut le commenter un petit peu, ce poème. Non, parce qu'on parlait tout à l'heure de effectivement cet engagement politique dans un mouvement qui a eu ses graves échecs. Mmh. Mais là, on a affaire à un engagement politique humaniste qui parie sur l'homme, qui parie sur l'avenir, qui parie sur le fait qu'on va changer le monde. Et ça, je trouve ça absolument magnifique de la part d'un poète comme Aragon.
Oui, et puis ça aide à vivre.
Et vous qui êtes maintenant au quotidien avec ces mots, est-ce que vous comprenez mieux l'alchimie de leur couple, la manière dont leur amour s'est conjugué durant de nombreuses années? Je crois qu'ils sont restés 35 ans.
Oui, mais je crois que c'est, vous savez, c'est comme disaient les surréalistes, c'est un hasard objectif, leur rencontre. Vous savez jamais pourquoi ça va marcher, un couple. Au fond, vous savez jamais. Et c'est ça qui est génial. Eux, il y a, je pense, quand je dis hasard objectif, je pense que ce sont deux personnes avec deux propositions de lecture du monde qui se complétaient, qui s'emboîtaient, qui se reconnaissaient. C'est pour ça que ça marche.
Et qui s'admiraient. Voilà, qui se respectaient aussi. Même si, effectivement, il y avait à l'intérieur de cet emboîtement des contradictions, parfois douloureuses.
Et puis voilà. Du quotidien. Parce que le truc du couple, c'est quand même la durée, non? Le quotidien.
La durée, la manière aussi, probablement plus pour Elsa Triolet que pour Arago, puisque ce que l'on découvre aussi, c'est que l'une aidait beaucoup plus l'autre. Elsa Triolet était beaucoup plus présente pour les textes d'Aragon qu'Aragon ne l'a été pour sa femme.
Oui, mais Aragon, comme beaucoup d'hommes, excusez-moi. Mais oui, je lâcherai pas là-dessus. Vous prenez beaucoup de place, messieurs, beaucoup.
Vous pensez que, par exemple, Sartre et Beauvoir, Beauvoir étaient empêchés de créer par Sartre?
Mais toutes les femmes ont été empêchées de créer par les hommes. Elles ont toutes, c'est pour ça qu'elles ont cette force inimaginable, sans lesquelles les hommes ne tiennent pas. Hein. S'ils n'ont pas quand même un pilier, ils se cassent la gueule. Hein.
Mais vous qui êtes avec un créateur,
oui, mais c'est pour ça que je l'ai dit. Ben, bien sûr.
Et là,
je parle, de moi. Ben, je lui dis que si j'étais pas là, il n'aurait jamais fait de cinéma.
C'est tout. Et lui, qu'est-ce qu'il vous répond?
Que je me prends pour je sais pas quoi. Qui dit qu'il a besoin de personne. Et voilà, c'est comme ça que ça marche.
Alors à ce propos, écoutez ça.
Aragon dit toujours qu'il est une ombre à vos pieds.
Il a tort. Il me fait du tort. Toujours il se diminue par rapport à moi. Ça fâche les gens. Et ils ont raison. Je sais que j'ai beaucoup fait pour... Aragon, pas exprès, ça s'est fait comme ça. Parce que nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai beaucoup influencé toutes ses écrits. Il m'en est très reconnaissant, je crois. Parce que c'est allé, au bout du compte, dans le sens dans lequel il voulait que ça aille. Et qu'il y avait un moment où il avait eu beaucoup de mal à se trouver, à se retrouver. Il avait complètement perdu son chemin en tant qu'écrivain. Et de m'avoir à côté de lui, je le dis sans fausse modestie, a probablement été comme un chemin balisé. Et il veut toujours me remercier pour ça. Il n'arrête pas de me remercier.
Alors là, c'est le sacre d'Ariane Ascari.
En entendant,
bah non, mais,
non, mais c'est
tout
génial,
est dit là, tout est dit.
Et je soupçonne des tas de gens qui, en entendant, se disent ah bah dites donc, pour qui elle se prend. C'est parce que ça existe encore, ça. Parce que je pense que cette femme qui parlait avec cette liberté là et cette sincérité là, c'est aussi ça qui a donné cette image de bonne femme, un peu de comment dire, d'institutrice. Vous voyez cette image, alors qu'elle ne dit que une chose qui est vraie, mais elle le dit. Alors qu'avant, vous voyez, non, je le soutiens un peu, mais enfin voilà. Tandis qu'elle, elle dit.
Mais c'est quand même très différent de l'entendre là et d'entendre les mots d'amour de ses poèmes. Là, il y a quand même une vraie différence.
Ben c'est la différence qu'il y a entre une réalité qu'on apprivoise, dans laquelle on vit et qu'on gère comme on peut, et la sublimation de ça. Et il faut les deux. Il faut les deux. C'est très formidable qu'Elsa soit là pour ramener effectivement une dimension de réalisme et de vérité dans la vie, et c'est très important aussi que Aragon fabrique ce mythe. Mmh. Voilà, moi je pense que, et c'est ça qui touche nos spectateurs en fait, parce que c'est très présent dans le spectacle qu'on interprète. Les gens sont touchés à la fois par ces moments de lucidité et de vérité que porte Elsa, et ces moments de fulgurance poétique que lui consacre à son amour, à Elsa, les yeux d'Elsa. Bon, voilà, c'est ça.
Un dernier mot, Ariane Ascari.
Non, ben voilà, mais moi, je revois à la fin de ce poème, l'avenir de l'homme et la femme, et où il dit à un moment donné, sans elle, il n'est qu'un blasphème, il n'est qu'un noyau sans le fruit. C'est-à-dire qu'il est quand même le noyau, mais il n'y a pas le fruit. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Mais il le dit.
Mais il le dit.